Europe 1, il est 8h.
Europe Matin Weekend.
Johan Tritz.
Et je vous l'avais promis, le journal de 8h, c'est avec Clotilde Dumais. Bonjour.
Bonjour Johan, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut faire durer la lune de miel pour entretenir ce qu'il appelle une histoire d'amour avec l'Algérie. Le président doit aujourd'hui signer un partenariat avec son homologue algérien.
Et pendant ce temps, les idylles de vacances se terminent. On boucle les valises pour ce dernier week-end avant la rentrée.
Et puis en sport, les Lillois renouent quant à eux avec le succès. Victoire contre Ajaccio hier soir. Moins d'une semaine après leur sévère défaite face aux Parisiens.
Alors la météo, est-ce qu'elle est sévère aujourd'hui, Marine?
Encore un petit peu d'instabilité avec des averses potentiellement orageuses près des frontières de l'Est et en Corse. Ailleurs, c'est plutôt un temps calme, assez bien ensoleillé, après dissipation évidemment des plaques de grisaille et les températures qui restent estivales.
Merci Marine, on vous retrouve tout à l'heure pour un point complet.
Europe 1.
Troisième et dernier jour de visite pour Emmanuel Macron en Algérie.
Le président a quitté Alger hier soir. Il est désormais à Oran. Ce matin, il a prévu de se rendre à la boutique Disco Maghreb, qui est aussi un label de musique raï des années 80. Il renaît de ses cendres depuis la sortie du tube du même nom de l'artiste franco-algérien DJ Snake. Emmanuel Macron doit par ailleurs assister à une démonstration de breakdance et échanger avec des acteurs du monde sportif. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie. Alors après ce passage dans la deuxième ville du pays, Emmanuel Macron devait initialement rentrer en France. Mais finalement, changement de programme, Jacques, le président va retourner à Alger.
Oui, avant de rentrer à Paris, Emmanuel Macron veut mettre noir sur blanc les résultats de cette visite. Une brève escale dans la capitale algérienne pour retrouver le président Abdelmadjid Tebboune.
Je reviendrai quelques instants à Alger pour signer une déclaration commune. Les choses se font bien quand elles se font toujours avec, en quelque sorte, l'enthousiasme du moment et la force de ces instants. Parce que je pense que nous sommes à un moment où nous pouvons bâtir ce nouveau pacte d'avenir.
Il s'agira d'une déclaration commune pour un partenariat renouvelé, concret et ambitieux, précise l'Élysée. La promesse que la brouille diplomatique entre les deux pays appartient désormais au passé. Emmanuel Macron a confié avoir longuement échangé avec son homologue sur le sujet des visas accordés par la France et sur la question de la réadmission dans leur pays des ressortissants algériens en situation irrégulière sur notre territoire. Le président français promet des avancées. Reste à savoir si ce point précisément fera l'objet d'un engagement explicite et chiffré.
Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie.
Et on en parle de ce déplacement d'Emmanuel Macron qui se termine aujourd'hui en Algérie avec notre invité. C'est tout à l'heure, juste après le journal, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Et dans le même temps, en France, les partis de l'opposition font leur rentrée aussi.
Et oui, la France Insoumise organise ses journées d'été dans la Drôme, le Parti Socialiste à Blois et le Rassemblement National pense déjà à l'élection de son prochain président. Les deux candidats en course vont lancer leur campagne. D'un côté, Jordan Bardella, député européen, grand favori du scrutin et qui occupait ce poste par intérim. Et puis de l'autre, Louis Alliot, le maire de Perpignan, cadre historique du RN. Une chose est sûre, Victor Chabert, pour la première fois, le Rassemblement National ne sera pas dirigé par un Le Pen, même si ces deux candidats sont des fidèles de la députée du Pas-de-Calais.
Oui, deux lignes politiques qui ne sont pas si éloignées. Tous deux se revendiquent du marinisme, même si certains prêtent un marqueur identitaire plus fort à Jordan Bardella quand d'autres voient en Louis Alliot l'un des premiers artisans de la dédiabolisation. En interne, ce duel est plutôt bien vu, réalisé dans de bonnes conditions. Ce congrès prouverait la maturité du parti. Et si Jordan Bardella, le favori, l'emporte, le vote des militants le légitimerait définitivement pour incarner l'avenir du Rassemblement National. Marine Le Pen, de son côté, ne tranche pas entre les deux prétendants. Elle veut simplement un débat serein. Présidente du groupe à l'Assemblée, c'est de toute façon elle qui gardera la main. Avec 89 députés, le cœur du Rassemblement National se situe désormais au Palais Bourbon. Louis Alliot réunit ses soutiens cet après-midi dans son fief des Pyrénées-Orientales pour lancer sa campagne. Les deux candidats doivent réunir 70 parrainages d'élus avant le 9 septembre pour valider leur candidature. Le vote électronique débutera le 30 pour un mois. Les résultats seront annoncés lors du congrès samedi 5 novembre à Paris.
Les précisions de Victor Chabert. Dans l'actualité également, ce chiffre, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint l'an dernier. Hausse de 20% des féminicides par rapport à 2020. Les femmes représentent 85% du total des victimes de morts violentes au sein du couple, selon le bilan publié par le ministère de l'Intérieur.
Un rapport accablant. Donc, c'est le dernier week-end des vacances d'été Et toutes les bonnes choses, Clotilde, ont une fin, évidemment.
Eh bien oui, et c'est forcément rouge hein, dans le sens des retours. Bison Futé conseille notamment d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Poitiers dans la journée, tout comme l'A7 entre Lyon et Orange, et puis d'atteindre l'Île-de-France avant 14h pour éviter donc les bouchons et les désagréments du retour de vacances qui suffit à lui-même. À Marseille, Stéphane Burgat a rencontré quelques touristes sur le départ.
Le rituel est effectué avec une pointe de mauvaise grâce par ce père de famille.
Je suis en train de laver le pare-brise avant de reprendre la route pour rentrer à la maison. J'ai fait le plein de la voiture, je pense plus qu'à faire le plein d'essence. Et après, retour à la maison, la fin des vacances.
C'est le rituel douloureux ?
Bien sûr, faire entre 8h et 10h de route pour rentrer à la maison, c'est le côté un peu pénible des vacances.
Les valises sont déjà dans le coffre. C'est l'heure d'un départ anticipé avec une longue route en perspective pour cette famille hollandaise. Pas mécontent de retrouver le confort de la maison.
C'est bien aussi de rentrer à la maison, de retrouver une plus grande douche et un plus grand lit.
Et au moment d'un dernier café à l'ombre d'un pin parasol, l'occasion du bilan des vacances pour cet étudiant lyonnais.
C'est embêtant, mais bon, le rêve doit finir.
Il était comment le rêve ?
Court, mais très sympathique. Marseille, c'est une super ville. Mais en même temps, c'est un plaisir de reprendre les cours parce que j'aime bien apprendre.
Et les professionnels du tourisme qui gardent eux aussi le sourire avec la perspective d'une arrière-saison qui s'annonce excellente. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Excellente, comme le bilan de l'été, qui est également positif pour la SNCF.
23 millions de personnes ont voyagé en train en juillet et en août. C'est 10% de plus qu'en 2019, qui était jusqu'à présent l'année de référence. Alors que faut-il retenir de cet été, Clémence de Rhône, sur les rails français ?
Eh bien, dès le mois de juin, Christophe Fanichel, le patron de la SNCF, l'avait annoncé, cet été sera un été record. Force est de constater qu'il ne s'est pas trompé, il n'y a jamais eu autant de voyageurs dans les trains, que ce soit dans les TGV, les TER, les Intercités ou encore les Ouigo. Et sans surprise, les destinations habituelles ont toujours la cote, comme la Bretagne, la Méditerranée ou le Sud-Est, mais la fréquentation a fortement augmenté dans les Hauts-de-France, le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. La SNCF avait anticipé cet appétit pour les voyages en train. Elle a donc pu répondre aux attentes des Français. Mais il y a eu tout de même quelques couacs, notamment à cause de la canicule qui a obligé les trains à ralentir. Les fortes chaleurs fragilisent les rails et les caténaires, ce qui a causé des retards et des problèmes de logistique. Dans l'ensemble, la compagnie ferroviaire se dit très satisfaite de son été. Les usagers, eux, trouvent toujours que les prix des billets sont bien trop élevés, notamment à cette période. Pour répondre en partie à ces critiques, la SNCF compte mettre en place l'été prochain le paiement des billets en plusieurs fois.
Les précisions de Clémence de Rhône. Encore une occasion manquée pour valider un traité destiné à protéger la haute mer. Après 15 jours de négociations, les États membres des Nations Unies se sont séparés sans parvenir à trouver un accord parmi les contentieux à la répartition d'éventuels bénéfices issus de l'exploitation des ressources génétiques de la haute mer.
Il est 8h08 sur Europe 1, début de la quatrième journée de Ligue 1 avec une victoire pour Lille.
Et oui, après l'humiliation de la semaine dernière face au PSG, le LOSC s'est imposé 3-1 hier soir contre Ajaccio. Il n'aura donc finalement fallu que 5 jours, Jean-François Pérez, pour que les Lillois se remettent la tête à l'endroit.
Oui, et c'était pourtant loin d'être gagné. Jamais dans toute son histoire, Lille n'avait subi pareille déroute à domicile. Le milieu de terrain Benjamin André ne le cache pas, la gueule de bois était carabinée en début de semaine.
Facile, non, c'est jamais facile, mais voilà, c'est le job, il faut passer à autre chose. Il fallait montrer, je pense, beaucoup d'orgueil, c'est sur quoi le coach a insisté. Mais voilà, continuer à produire du jeu et c'est ce qu'on a fait ce soir.
Le jeu comme credo et comme remède, malgré une pelouse indigne hier soir. 3 buts, dont un splendide du Turc Yazici. Et puis les mots d'un coach ambitieux, le portugais Paulo Fonseca. Il n'en fallait pas plus pour remettre le groupe lillois à son juste niveau, le remplaçant Jonas Martin.
De toute façon, on sait très bien que si on respecte les consignes, si on est bien organisé, forcément avec les joueurs de talent qu'on a, on va faire la différence. Là, on a réussi à être patient, à marquer ce premier but, on ne s'est pas enflammé, on a resté sérieux. Ça a tourné en notre faveur, mais je pense que dans l'ensemble du match, c'est quand même mérité.
Et c'est ainsi qu'en dépit de ce 7-1 entré dans les annales des statistiques, les Lillois comptent désormais 7 points en 4 matchs et prennent provisoirement la 4e place. Le naufrage tant redouté n'était peut-être qu'une voie d'eau.
Lille qui est pour l'instant 4e au classement. 2 matchs à suivre aujourd'hui, Auxerre-Strasbourg à 17h, puis Lens-Rennes à 21h.
Merci Clotilde Dumay pour ce point complet. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, c'est la météo des plages.
À la plage, détendez-vous. Avec les 250 hôtels Kyriad, partez à la découverte de nos régions sur kyriad.com. Tout de suite, la météo des plages.
Et la météo des plages avec Marlène Duré. Quelles conditions cet après-midi? En tout cas, il y a un ciel qui est aussi entre nuages et soleil, a priori, près de la Manche.
Oui, absolument. De belles éclaircies, mais c'est vrai qu'on aura quand même des passages nuageux. La bise aussi, ce vent de nord-est qui va se mettre en place, donc il ne fera pas forcément très chaud. Si vous aimez vous baigner sur les plages du nord et de la Manche, au sortir de l'eau, prévoyez... la serviette, voilà, n'oubliez pas la serviette, les maximales 21 à 25, mais le ressenti sera un petit peu plus frais. Et dans l'eau, 17 à 21 degrés, la mer sera belle à peu agitée. Le long de l'Atlantique, alors là, pour les amateurs de bronzette, c'est bien du soleil, 24 à 28 en tout cas. Pour la température de l'eau, elle reste à 17 degrés si vous êtes par exemple du côté de Quiberon, donc plutôt sud Finistère. Elle est à 21 à Royan, 23 sur les plages de l'Aquitaine, et puis on va terminer par la Méditerranée, toujours beaucoup de soleil, des températures généralement au-dessus de 30 degrés, ça monte jusqu'à 33-34 dans les Bouches-du-Rhône, on n'est plus sur du 30-31 du côté de la Corse, un petit peu en dessous en allant vers les plages varoises, les Alpes-Maritimes aussi, et on a ces nuages qui peuvent déborder un petit peu sur les plages des Alpes-Maritimes. La mer est plutôt calme, belle, elle est à 23 degrés sur le pourtour du Golfe du Lion et elle monte à 27 si vous êtes du côté de la Riviera ou encore en Corse.
Merci Marlène Duré. À suivre, il est déjà avec nous d'ailleurs dans les studios, notre invité fil rouge Europe 1, il est déjà là depuis trois jours avec la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Xavier Durancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, arrive tout de suite dans quelques minutes.